Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. L'actualité, le libraire et liberté. Au programme, Sauver le couple. Michel Jean, Le pari de la fiction. Et Malade, complètement malade. Bonne écoute.
Sauver le couple, un texte de Marie-Hélène Proux, paru le 5 avril 2023 dans L'Actualité. Le couple traditionnel est sous pression. Beaucoup cherchent de nouveaux modèles, séparent amour et quotidien, remettent même en question la monogamie. Jusqu'où ira ce grand rebrassage? Ça sent la bonne soupe au poulet maison chez Mathieu et Émilie, stratégie éprouvée pour réconforter les esprits encore contrariés par la crisette qui a éclaté un peu plus tôt au retour de l'école. Les enfants sont désespérés parce qu'on a confisqué les jeux vidéo. Leur tâche n'était pas faite, raconte la mère de deux ados, tout en surveillant les techniques culinaires de son conjoint. Pourquoi tu coupes les haricots avant de les laver? Tu vas faire rentrer les pesticides à l'intérieur. Des petits nuages comme ceux-là, le couple dans la quarantaine en a vu passer tout plein en 20 ans d'union, dont 6 en tant qu'époux. Et de bien plus menaçants encore. On aurait pu se perdre 1000 fois, révèle Émilie, évoquant sans s'étendre la passe épouvantable qu'ils ont traversée en 2007 peu après avoir acheté leur condo dans le quartier Plateau-Mont-Royal à Montréal. Puis, il y a eu ce long tunnel où il jouait à « Pitch-moi le bébé » et à « Je suis plus fatigué que toi » lorsque leurs deux garçons étaient des bambins. Émilie cite Louis-Jean Cormier dans sa chanson « Le 13e étage ». Ça prend autant de folie que de courage. Du courage, il en faut également pour parler de sa vie intime. Aussi, avons-nous accepté de ne publier que les prénoms des personnes qui témoignent dans ce dossier? Quand Émilie contemple cette enfilade d'erreurs, de bons coups et de passages à vide, elle dit qu'elle ne recommencerait pas. Si Mathieu meurt ou la quitte demain, il n'y aura pas de prise d'eux avec un autre. Non, c'est trop tough. Son mari soupire. Ben oui, tu recommencerais. Lui se pose moins de questions, admet-il. Il referait le chemin avec elle. « Tu regrettes ?» demande-t-il. Sa louche tanguant dangereusement dans les airs. La gracieuse brune aux cheveux courts a longtemps senti qu'elle étouffait à l'intérieur de son couple et de sa famille. Il lui faut régulièrement s'en extraire pour faire entendre sa voix, sans avoir à s'occuper des autres. L'acquisition d'un chalet il y a 6 ans, puis d'une deuxième voiture en 2021, a beaucoup contribué à sauver les meubles, car chacun peut maintenant changer d'air quand ça s'impose. La seule pensée que cette possibilité soit présente est merveilleuse, raconte-t-elle. Si Mathieu ne respectait pas cet espace, ils ne seraient plus ensemble. « J'existe très fort, dit-elle, et j'ai le droit d'exister très fort à l'intérieur de ma relation. » Les tiraillements d'Émilie en attestent. Les histoires de cœur se sont beaucoup complexifiées dans les dernières décennies, constatent bien des spécialistes de la vie intime et des émotions. Parce que les individus se sentent plus pressés que jamais de réaliser leur fameux capital personnel dans toutes les sphères de leur existence. Parce que les attentes à l'égard de l'être aimé atteignent des sommets inégalés. Parce que l'abondance inouïe de partenaires potentiels sur les applications de rencontres donne le vertige. Et puis, parce que la sacro-sainte monogamie est de plus en plus remise en question selon une étude canadienne inédite publiée cet hiver. En même temps, le grand amour, celui qui résiste aux chicanes et à l'usure du temps, continue de faire rêver. Les couples sont aujourd'hui fondés sur une contradiction. On voudrait vivre avec l'autre, construire un petit monde basé sur le don de soi et la générosité, mais sans que notre partenaire prenne l'air qu'on a envie de respirer, affirme le sociologue Jean-Claude Kaufmann, directeur de recherche honoraire au Centre national de la recherche scientifique à Paris. Non pas qu'il y ait soudainement une épidémie de narcissisme, insiste l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont le dernier, Petite vengeance ou les trahisons positives dans le couple, paraît ce printemps au Québec, édition de l'Observatoire. C'est plutôt que le cadre moral collectif, qui scellait le destin des gens, notamment en leur imposant le mariage hétérosexuel pour la vie, a peu à peu volé en éclats, ce qui a eu pour effet d'entraîner une liberté extraordinaire dans tous les domaines. Cette autonomie s'accompagne toutefois de l'immense responsabilité de décider de sa propre vérité, de maîtriser sa vie, dit celui qui a recueilli à ce jour plus de 2000 témoignages dans le cadre de ses enquêtes sur l'amour et la vie quotidienne. En somme, les individus ressentent aujourd'hui une énorme pression pour ne pas rater leur bonheur. L'affaiblissement progressif du tissu communautaire depuis l'après-guerre fait que le couple est devenu la seule structure sociale de soutien pour les individus. Aux yeux de Jean-Claude Kaufmann, ces tensions intérieures expliquent en partie les nouveaux bouleversements observés au sein des trajectoires amoureuses, qui se reflètent d'ailleurs dans les plus récentes données de Statistique Canada. Par exemple, la proportion des Canadiens de 25 à 29 ans mariés ou conjoints de fait a chuté dramatiquement depuis 1981, passant de 68 % à 39 % en 2021. Et près du tiers des gens de 20 à 34 ans ne vivent pas sous le même toit que leur partenaire, par choix ou pour des raisons circonstancielles, une tendance en croissance selon l'enquête sociale canadienne. Si les exigences que l'Homo sapiens s'impose sont herculéennes, il en va de même pour celle qu'il a envers sa tendre moitié. C'est que cette dernière remplace un village à elle seule, observe bon nombre d'intellectuels. L'affaiblissement progressif du tissu communautaire depuis l'après-guerre fait que le couple est devenu la seule structure sociale de soutien pour les individus, selon la franco-israélienne Eva Illouz, l'une des figures les plus influentes en sociologie de l'intime. Elle a notamment écrit « Pourquoi l'amour fait mal, l'expérience amoureuse dans la modernité », paru aux éditions du Seuil en 2012. Partenaire financier, amant, coparent, confident, thérapeute, co-organisateur du quotidien, co-planificateur des grands projets de vie, l'amoureux est contraint de changer de costume plusieurs fois par jour. Je ne dirais pas que cette augmentation des attentes rend les relations plus fragiles, mais elle les complexifie car il faut évaluer divers éléments lorsqu'il s'agit de déterminer si on est bien dans son couple, explique Chiara Piazzesi, la chef d'orchestre de MACLIC, Mapping Contemporary Love and Intimacy Ideals in Canada, cartographier les idéaux amoureux et intimes au Canada, une enquête menée en 2022 auprès de 4009 Canadiens, dont 1972 Québécois. Se donner mutuellement la permission de sauter la clôture est peut-être une manière de préserver la longévité du couple. La professeure à l'UQAM en a pour des années avec son équipe à décortiquer la tonne d'informations découlant du long questionnaire envoyé aux participants, entre autres sur la satisfaction sexuelle et le rapport à l'amour-passion. Mais déjà, quelques tendances la frappent. D'abord, l'attachement encore très marqué, chez tous les groupes d'âge, à l'exclusivité romantique, c'est-à-dire au fait d'être investi auprès d'une seule personne sur le plan amoureux. Parmi les répondants en couple, c'est le cas de 91 % des hétéros, 95 % des femmes contre 85 % des hommes, de 55 % des personnes homosexuelles, bisexuelles, pansexuelles ou queer, 65 % des femmes, 41 % des hommes, et de 36 % des personnes non-binaires. La surprise des surprises se trouve toutefois du côté de l'importance accordée à l'exclusivité sexuelle. Ainsi, 17 % des participants en union hétérosexuelle, plus d'une femme sur 8 et un homme sur 4, estiment que partager son lit avec une seule personne n'est pas le scénario idéal. Chez les répondants de la diversité sexuelle en couple, cette proportion grimpe à 64 %, soit un peu moins de 6 femmes sur 10, 57 %, et 7 hommes sur 10. Des données suffisamment élevées pour indiquer une transformation sociale remarquable du rapport à la monogamie perçue depuis des lustres comme le préalable à une relation de couple réussie, juge Chiara Piazzesi. Se donner mutuellement la permission de sauter la clôture est peut-être une manière de préserver la longévité du couple quand le désir commence à s'effriter. L'équipe de MACLIC validera cette hypothèse lors d'entrevues qualitatives. L'exclusivité sexuelle et affective n'est probablement pas aussi indispensable au bonheur conjugal que ce que les institutions nous ont laissé croire pendant longtemps, avance la sociologue. Du moins, pas pour tout le monde. Ce changement de mentalité est en bonne partie porté par les personnes de la communauté LGBTQ+, depuis toujours avant-gardistes dans la sphère intime. Ces dernières sont plus enclines à remettre en question les normes sociales et culturelles dominantes en matière d'amour et de sexualité, notamment parce qu'elles en ont été exclues dans le passé, soutient Martin Blais, à la tête de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'UQAM. Le sexologue rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, les unions homosexuelles étaient considérées comme diaboliques, criminelles et même pathologiques. Il a fallu attendre 1990 pour que l'Organisation mondiale de la santé supprime l'homosexualité de la classification internationale des maladies, par exemple. Ça a forcé les gens à trouver d'autres options que le mariage pour vivre leurs relations, et cette culture de l'innovation persiste, observe Martin Blais. D'autant que la société est maintenant plus ouverte à la différence. Des personnes attirées par plusieurs genres aménagent aujourd'hui des modèles dans lesquels ces désirs peuvent coexister. Michel Jean, Le pari de la fiction. Un texte de Philippe Fortin, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue Les Libraires. La récente réédition d'El Inou sous le titre « Atouk, El Inou », sa participation au recueil de nouvelles Wapke, de même que l'étonnante seconde vie de son roman Koukoum, concourt à ramener la figure de l'écrivain qu'est Michel Jean au cœur de l'actualité littéraire. Après un peu plus d'une décennie, presque autant de livres publiés et un succès populaire indéniable, il aura toutefois fallu le prix France-Québec pour que le secret bien gardé de sa valeur s'éventre enfin. Entretien. Michel Jean n'est pas de ceux qui écrivent pour obtenir des prix. Il avoue plutôt écrire pour son peuple, pour que notre histoire existe quelque part, ajoute-t-il. Celui que l'obtention du prix France-Québec, à la fois surpris et flatté, est aussi très fier de voir Koukoum auréolé d'une reconnaissance officielle. En France, personne ne me connaissait. J'étais un « nobody ». Le prix a été attribué selon la qualité du texte, et c'est là ce qui m'importe le plus dans tout ça. Au fil du récit romanesque d'Almanda Siméon, rare femme blanche à avoir pris le bois, par amour qui plus est, le livre évoque tout un pan de l'histoire du XXe siècle. La fin du nomadisme et la sédentarisation forcée des Autochtones y apparaissent comme les dommages collatéraux d'un monde où la mainmise des entreprises sur les populations est implicitement justifiée par l'implacable marche du progrès. Bon an, mal an, l'œuvre de Michel Jean a su trouver un lectorat aussi nombreux que varié, ce qui est d'autant plus rare et digne de mention que celle-ci aborde le plus souvent des thématiques et des enjeux qui ne sont ni faciles ni consensuels. Le succès européen de Cocoum constitue d'ailleurs, à son avis, la preuve que les histoires traitant des peuples autochtones sont universelles et peuvent intéresser un public outre-Atlantique. C'est pas juste des histoires d'Indiens. C'est des vraies histoires, et c'est capable de rejoindre un large public. Cette remarque illustre bien l'attitude de l'auteur quant à la teneur autochtone de ses livres. Avec son approche décomplexée, Michel Jean bâtit une œuvre romanesque qui évite le piège de l'essentialisme tout en se gardant bien de ne prêcher qu'à des convertis, ce qui ne l'empêche pourtant pas de mettre en évidence les immondices d'une histoire autochtone souvent peu ou mal connue du public. Ce parti pris pour la fiction n'est toutefois pas tout à fait innocent. Par l'usage de divers procédés littéraires, la fiction, souvent, favorise l'identification du lecteur aux personnages dont il suit les péripéties, pleure les peines et partage les joies. Par la mise en scène d'histoires inspirées de faits réels, les romans de Michel Jean, en s'adressant plus directement au cœur du lecteur que ne le peuvent les meilleurs essais, deviennent ainsi de formidables vecteurs de sensibilisation. Personnellement, moi, l'histoire de ma famille, je ne pense pas que ce soit assez important pour en faire des livres. C'est juste que je me sers de ça pour raconter une histoire. J'utilise les faits pour rappeler aux gens que ce qui s'est passé est arrivé à du vrai monde. Et j'essaie de leur faire ressentir pour qu'ils le comprennent au lieu de leur expliquer pour qu'ils le sachent. Personnaliser l'histoire autochtone au sein de romans en mettant l'accent sur l'humanité de personnages auxquels tout un chacun peut s'identifier, voilà le pari que fait l'auteur pour ce qui est d'encourager les mentalités à changer. Au contraire d'un débat où chacun reste le plus souvent campé sur ses positions, la puissance de la littérature à travers des histoires que les gens ressentent, c'est qu'elle est capable de les amener à voir les choses autrement. Questionné à savoir s'il a l'impression que les choses évoluent dans le bon sens, il répond que c'est par de petits détails qu'on peut s'apercevoir que oui. À l'époque de la parution d'El Inou en 2012, j'étais fermé à l'idée de donner un titre en Inou au livre. Je croyais que si tel était le cas, beaucoup de gens ne le liraient pas simplement à cause de ça. Pour Cocoum, la question ne s'est même pas posée. Si la situation des Autochtones continue de le préoccuper, Michel Jean estime toutefois que l'intérêt de l'Europe pour ces questions forcera tôt ou tard le Canada à revoir ses propres politiques. Ce n'est pas le côté folklorique de tout ça qui les intéresse à l'étranger, c'est vraiment la question de l'autodétermination des peuples, le sort qui est réservé aux Autochtones, ce que les gouvernements en font. Ça va finir par rattraper le Canada. L'homme de lettres considère que la littérature autochtone est encore jeune et que son évolution se fera au rythme de celle des communautés qui la portent. Qu'elle ne peut pas vraiment se fixer. Il est d'ailleurs heureux de la présence de nombreux nouveaux auteurs au sein du recueil de nouvelles Wapke, où il signe aussi un texte. Pionnier d'un nouvel essor et rare romancier autochtone grand public, Michel Jean poursuit une œuvre lucide, empreinte d'empathie. C'était Michel Jean, Le Paris de la fiction, un texte de Philippe Fortin paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue Les Libraires.
Malade, complètement malade. Un texte de Rosalie Lavoie paru à l'été 2023 dans le numéro 339 de la revue Liberté. Le vertige me prend à l'écriture de mon dernier édito. Je voudrais pouvoir tout dire en un solide 800 mots bien tassés. J'ai toujours eu le fantasme que les mots inspirent la révolte, qu'ils fassent des trous dans la page, frappent comme un éclair et stimulent l'action immédiate, irrévocable. Ça fait couperet. J'aime ça. Je crois encore, malgré mon côté pessimiste, au pouvoir des mots. Même si la parole ne va jamais aussi vite que la pensée et que nous espérons encore qu'elle engendre le mouvement. C'est étrange ce que fait la matière. Comme elle oblige à la lenteur et au labeur, il faut doser. Dans la matière, rien n'est gratuit. Toute dépense d'énergie exige un effort, et l'effort, du carburant. Il est impossible de contourner cette loi. Nous ne pourrons pas nous lever, par exemple, sans une dépense d'énergie. Et cette énergie, nous la trouverons dans les aliments, pleins de glyphosate, dans l'air surtout, puisque l'oxygène est le premier composant, avec le glucose, de l'énergie qui nous anime, celle qui fait fonctionner nos organes, nos tissus, nos cellules, et qui permet la pensée, la parole, le mouvement. Je crois que l'énergie dont nous disposons s'appelle, au fond, santé. Et pour avoir la santé, il faut des moyens. C'est par la santé des individus que nous mesurons la vitalité d'une société, sa richesse au sens large. La santé ne demande pas seulement une bonne génétique ou de bien s'alimenter, de faire de l'exercice, blablabla. Ce n'est pas une responsabilité individuelle, mais collective. Et il faut d'abord et avant tout une structure qui permette d'atténuer les écarts de richesse au sens strict. Plus il y a d'inégalités, plus une société est en mauvaise santé. Dans mon petit milieu, éduqué à gauche, on a la conscience tranquille parce qu'on travaille fort et qu'on est mal payé. On espère aller dans le sens du bien commun avec nos mots, et ce sont d'importantes batailles. Mais dans ce combat, je dois l'admettre, il m'est arrivé d'oublier le réel, un oubli de classe, peut-être. Ce n'est pas un oubli volontaire, c'est un oubli idiot. Sclérotique, qui peut rendre aveugle à la réalité des autres. C'est seulement au contact des malades, à l'hôpital, lors de mes stages, je change de métier, que j'ai compris combien je ne saisissais pas dans toute sa gravité l'ampleur des dommages causés par les inégalités sociales. C'est ce qui se trouve à la base même de la vie, l'énergie qui est corrompue, voire empêchée par elle. Comme société, nous n'avons pas fait le choix de les combattre. Dans les faits, nous nous éloignons de cet idéal depuis quelques décennies. Mais dernièrement, c'est comme si on était passé à la vitesse supérieure. J'ai même l'impression qu'on leur pave la voie aux inégalités. Je ne sais pas, vous, mais moi, je n'ai jamais vu autant de voitures de luxe dans les rues. Pendant qu'on vit une véritable crise humanitaire avec les problèmes d'itinérance à Montréal, il y en a qui ont les moyens de s'acheter des Tesla puis des Porsche. Les loyers n'ont jamais été aussi chers, tandis que d'immenses maisons vides sont rénovées au goût du jour, et pendant que vous essayez de faire votre épicerie sans y laisser votre peau, on démantibule le tissu social, les systèmes de santé et d'éducation à coups de réorganisation et de baisse d'impôts ridicules qui ne profitent qu'aux riches. Se dresse lentement, mais sûrement, le portrait d'une société divisée en riches et en pauvres. On aura des bidonvilles à Montréal, à force d'être rénovictés. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Le coût social de ce choix, car il s'agit d'un choix de société, est immense, et on le voit en primeur dans les hôpitaux. Les gens ne vont pas bien, mais alors là, pas bien du tout. Je ne vous parle pas d'accidents, de bras cassés, de maladies relativement communes ou même de cancers, je vous parle de misère sociale. Je vous parle de patients, patientes, de moins de 50 ans, à qui on offre des soins de fin de vie tellement ils ou elles sont maganés. Je vous parle d'agressions, plusieurs par jour aux urgences. Je vous parle de maladies mentales, de toxicomanie et d'alcoolisme sévère. Je vous parle de désolation et de solitude à un degré inimaginable. Je vous parle aussi de la différence monumentale qu'il peut y avoir entre un médecin et son patient. Différence de classe, de langage, de tenue, d'apparence. Ce sont littéralement deux mondes parallèles. Qu'est-ce que ça dit d'une société quand la réalité de la personne qui te soigne est aux antipodes de la tienne? Quand la personne malade est dans cet état pour des raisons inversement proportionnelles à celles qui font que le médecin devient médecin, c'est-à-dire la plupart du temps la reproduction sociale? Peut-on encore s'appeler société quand de telles divisions rongent son cœur? Je veux vous remercier, lecteurs et lectrices, d'avoir été là, de continuer d'être là. Ça compte. Puis, vous allez être entre de bonnes mains avec l'équipe actuelle et la revue a de beaux projets. Mon souhait de départ, la santé, et que les mots nous inspirent à l'action. Bye là! À bientôt. C'était Malade, complètement malade, un texte de Rosalie Lavoie, paru à l'été 2023 dans le numéro 339 de la revue Liberté.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Serge Hamelin à la lecture, Diane Métayer et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.